12h30, 14h.
Raphaël Duchemin sur Europe 1.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, soyez les bienvenus. Si vous nous rejoignez sur Europe 1, nous sommes ensemble jusqu'à 14h. Bonjour Anissa.
Bonjour Raphaël, bonjour à tous.
Dans une minute, Pierre de Villeneuve et votre grand journal. Et puis dès 13h, on fait bouger la France avec les premières chaleurs. C'est vrai qu'on a tous commencé plus ou moins à s'exposer, mais il faut penser à se protéger des premiers rayons du soleil. On va vous y aider avec des produits français. A tout de suite.
Il est midi et demi. Le journal de la mi-journée sur Europe 1 avec Pierre de Villeneuve et Raphaël Duchemin.
Bonjour Pierre.
Bonjour Raphaël, bonjour à tous.
À la une aujourd'hui, le tueur de la gare de Perpignan entendu sur un cold case vieux de plus de 30 ans.
Oui, c'est une information Europe 1 que nous vous dévoilions ce matin. Jacques Ranson, qui avait atrocement mutilé deux jeunes femmes à la fin des années 90, a été extrait de prison pour être interrogé sur le meurtre tout aussi ignoble d'une jeune informaticienne près d'Amiens en 1986. Le détail dès le début de ce journal. Action, réaction, un député veut taxer les plaisanciers pour financer le sauvetage en mer. Sébastien Jumel va présenter sa proposition de loi à l'Assemblée après la mort de trois sauveteurs à la SNSM. Il compte récupérer 5 millions d'euros par an. On vous explique tout. Dans ce journal également, dernière ligne droite pour le procès Balkany. La justice qui décidément ne lâche pas Michel Platini. Un coup de projecteur exceptionnel sur le trafic de drogue en Guyane. C'est une enquête Europe 1 et les candidats au bac français qui tombent de leur chaise en découvrant qu'André Chédide était une femme. C'est mercredi, les sorties ciné bien sûr avec Mathieu Charrier en fin de journal et la météo, Elena Morna, et vous nous dites qu'une nouvelle vague d'orages approche.
Alors comme hier, hein, les orages seront localement forts avec de la grêle comme ce qui s'est passé cette nuit à Flers en Normandie. On aura des orages donc cet après-midi, tout au long de la nuit. Ils circuleront d'abord sur un axe Pays de la Loire, Nord-Pas-de-Calais, mais aussi Massif Central, Nord-Est. Bon, quand même à dire sur le Sud, et puis des températures qui fraîchissent à l'Ouest.
Merci Elena. Météo complète, ce sera juste avant 13h sur Europe 1.
Europe 1.
C'était il y a 33 ans, Pierre. Isabelle Ménage, une informaticienne de 20 ans, était retrouvée morte sur un chemin de terre près d'Amiens.
Et cette affaire, c'est un cold case, traduisez affaire non résolue. On n'a jamais eu le fin mot de l'histoire. Mais voilà, hier matin, Jacques Ranson, celui qu'on avait nommé le tueur de la gare de Perpignan, a été extrait de prison, c'est une information Europe 1, extrait de prison par les gendarmes pour être interrogé sur ce meurtre, Pierre de Cossette.
Oui, un meurtre sauvage perpétré en 1986. On trouve alors sur place un gourdin ensanglanté, mais l'enquête ne donne rien et la justice referme le dossier 6 ans plus tard, en 1992. Sauf que l'an dernier, à 800 km de là, à Perpignan, est jugé un homme, Jacques Ranson, qui a tué deux femmes dans les années 90 dans le quartier de la gare. Le mode opératoire est abominable, il fait penser à s'y méprendre à celui utilisé pour Isabelle Ménage. Et l'on s'aperçoit aussi que la Picardie, c'est la terre natale de Jacques Ranson. La famille de la jeune femme s'en émeut et le parquet d'Amiens décide de rouvrir l'enquête. D'après nos informations, l'exhumation du corps de la victime a apporté des éléments troublants et les gendarmes ont découvert que le suspect vivait dans la région à cette époque. On sait aussi qu'il a été condamné pour le viol d'une autre jeune femme au profil similaire à Amiens en 1992. Hier matin, Jacques Ranson a donc été extrait de sa cellule à Béziers. Il est interrogé par les gendarmes de la section de recherche d'Amiens, descendu spécialement avec les deux juges d'instruction. Le tueur de la gare de Perpignan n'a pas souhaité d'avocat. Ses conseils historiques ont appris la nouvelle ce matin sur Europe 1. On saura demain si Jacques Ranson est mis en examen pour un troisième meurtre, ce qui ferait de lui un tueur en série.
Merci Pierre de Cossette avec Chloé Triomphe du service police justice d'Europe 1 pour cette information exclusive. La justice encore avec le procès Balkany. Après 6 semaines de débat, les auditions touchent à leur fin. Place aujourd'hui à la plaidoirie de la défense avec maître Éric Dupont-Moretti. Salomé Legrand, vous êtes en direct du tribunal de Paris et vous vous attendez à du grand spectacle.
Ah oui, et devant salle comble, Pierre, les tout premiers spectateurs étaient déjà devant la porte à 9h30 ce matin pour ce dernier acte. Avec donc la deuxième tête d'affiche de ce procès, Éric Dupont-Moretti, ténor du barreau. Le très médiatique avocat a passé l'essentiel des audiences à grommeler derrière son client en faisant finalement assez peu d'interventions sur le fond du dossier. Il est surnommé acquittateur, mais aujourd'hui l'enjeu est plutôt de faire éviter la prison à Patrick Balkany. Je vous rappelle, 7 ans requis avec mandat de dépôt. La tâche n'est donc pas simple. D'abord parce que l'explication du maire de Levallois, qui affirme depuis le début n'avoir dépensé que de l'argent familial, paraît légère face aux charge. Et même si la défense des autres prévenus a hier affaibli le dossier sur la partie corruption, elle a, au passage, miné la défense de Patrick Balkany sur le Riyad à Marrakech. Tâche lourde surtout, parce qu'en faisant le show dans le prétoire jour après jour, l'élu s'est montré particulièrement arrogant, une attitude loin de la gravité des enjeux qu'Éric Dupond-Moretti, lui-même tonitruant, va devoir essayer de gommer tout à l'heure.
Merci Salomé Legrand, direct du tribunal de Paris pour Europe 1. Suivez le compte Twitter de Salomé et vous aurez l'audience quasi minute par minute.
Il est 12h34 sur Europe 1, la suite du journal. Pierre de Villeneuve, Raphaël Duchemin.
Michel Platini a été entendu jusqu'à 1h du matin cette nuit, Pierre, par les enquêteurs de la police judiciaire de Nanterre, toujours dans le dossier des soupçons de corruption dans l'attribution de la Coupe du Monde au Qatar en 2022.
Et il est ressorti libre de cette garde à vue qui a duré 15 heures au total. Écoutez-le, c'était en pleine nuit tout à l'heure.
Écoutez, ça a été long, mais vu le nombre de questions, ça devait être que long, puisqu'on m'a quand même posé des questions sur l'Euro 2016, la Coupe du Monde en Russie, la Coupe du Monde au Qatar, le Paris Saint-Germain, la FIFA. Donc il y a beaucoup de thématiques. Et donc j'ai répondu, voilà, tranquille à tout ça. J'ai toujours été serein, parce que je me sens complètement étranger à n'importe quelle affaire. Je devais arriver comme auditeur libre, je suis arrivé, on me met tout de suite en garde à vue. Ça fait mal, quoi. Hein. Ça fait mal pour tout ce que je peux penser, tout ce que j'ai fait, ça fait mal. Mais bon, après, ils ont fait leur boulot et puis on a essayé de répondre à toutes les questions. Voilà.
Voilà, ça fait mal, dit Michel Platini au micro de Jeanne Bergaoui. Bonjour Christophe Lamarre.
Bonjour.
On sent Michel Platini très affecté par cet interrogatoire. Il dit avoir répondu à toutes les questions, mais ce qui apparaît évident désormais, c'est que le feuilleton judiciaire n'est pas prêt de se terminer.
Oui, mais c'est le principe même du feuilleton, à ceci près que dans une fiction, on connaît a priori la date du dernier épisode. Dans le cadre de l'attribution de la Coupe du Monde au Qatar, le film promet de s'étirer en longueur encore un bon moment. Il faut rappeler que la justice américaine poursuit son enquête qui visait au départ un vaste système de corruption et de rétrocommission mis en place au sein de la FIFA. La justice suisse lui a emboîté le pas et depuis 3 ans, le parquet national financier s'intéresse lui aussi à l'affaire. À tort ou à raison, Michel Platini paie aujourd'hui le fait d'avoir été un homme incontournable dans le monde du football. Ainsi, il est président de l'UEFA lorsque Nicolas Sarkozy le reçoit à l'Élysée ce 23 novembre 2010 pour un déjeuner secret. Ses proches se demandent d'ailleurs quand cela cessera-t-il. Blanchi par la justice suisse dans l'affaire du versement de près de 2 millions d'euros, sa suspension de toute activité liée au football, souvenez-vous, devait prendre fin en octobre. Cette garde à vue dont il est ressorti libre et sans mise en examen est un signal. Coupable ou innocent, Michel Platini n'en a pas fini avec cette affaire et ses ennemis. Ce déjeuner à l'Élysée risque de le poursuivre encore longtemps.
Merci Christophe Lamarre du service des sports d'Europe 1. Dernière minute concernant le meurtre de Jamal Khashoggi. Une experte des Nations Unies estime qu'il y a des preuves suffisantes pour enquêter sur le prince héritier saoudien Mohamed Ben Salman. Elle en appelle à ses supérieurs pour lancer une enquête internationale. Le journaliste saoudien, rappelons-le, a été tué à l'intérieur du consulat de son pays à Istanbul le 2 octobre 2018. Dans des circonstances jusqu'à présent pas totalement expliquées.
Changement de décor, Pierre, avec la privatisation d'Aéroports de Paris. Le gouvernement veut se défaire de l'établissement public trop coûteux, mal géré. 6 milliards d'euros d'investissement prévus entre 2021 et 2025. Après la pétition, voici la proposition d'un RIP, un référendum d'initiative populaire.
Et pour ce faire, les opposants doivent recueillir constitutionnellement 4 700 000 signatures. Le député La France Insoumise, François Ruffin, y croit. Il dénonce la piteuse gestion de l'État dans ADP et surtout, il estime que l'exécutif fait tout pour bloquer ce référendum.
On a un référendum d'initiative partagée, c'est national, mais normalement c'est au gouvernement de faire du boulot d'information là-dessus. On sait qu'ils ne feront pas ce travail, donc c'est à nous de le faire. On fait des documents qui ne sont même pas des tracts, parce que c'est juste sur informer les gens que ce référendum existe. Ce que nous avons à faire, c'est même pas un travail de conviction pour dire aux gens, soyez contre la privatisation des aéroports de Paris, mais juste les informer qu'un référendum est en cours. Parce qu'ils ne le savent pas et le gouvernement fera tout pour qu'ils ne le sachent pas. Et ensuite, même quand ils le savent, on voit bien que le gouvernement fait de son mieux pour avoir un site qui fait que c'est hyper compliqué de pouvoir signer ce référendum d'initiative partagée. On va contraindre le gouvernement à se dire mais c'est la honte d'avoir un truc pareil.
François Ruffin au micro de Maya Sido. Et puis cette information qui, sans doute, peut-être, va vous faire sursauter comme moi, Adidas s'est fait retoquer par le tribunal de l'Union européenne l'équipementier sportif. Voulait enregistrer ces fameuses 3 bandes parallèles en tant que marque. Eh bien non, dit le tribunal européen, Adidas ne prouve pas que ces trois bandes ont acquis un caractère distinctif sur l'ensemble du territoire de l'Union.
Il est 12h39.
Europe 1.
Vous restez avec nous, bien sûr, sur Europe 1. Et dans un instant, un député qui veut taxer les plaisanciers pour financer le sauvetage en mer. A tout de suite.
Il est 12h41 sur Europe 1, la suite du journal avec Pierre de Villeneuve et Raphaël Duchemin.
Une idée originale maintenant, Pierre, pour financer le sauvetage en mer.
Le 7 juin, souvenez-vous, trois sauveteurs de la SNSM périssaient au large des Sables d'Olonne. Un hommage national a été rendu par le président Macron. Ce drame a fait ressurgir la question des moyens financiers de cette association, la SNSM, qui tourne essentiellement avec des dons privés et du mécénat. 80%, l'État et les collectivités n'interviennent qu'à 20%. Le député PCF, Sébastien Jumel, propose une loi à l'Assemblée et son idée, Marguerite Lefebvre, c'est de faire payer les plaisanciers.
Oui, et sa proposition de loi, celle qu'il a présentée ce matin, tient en quelques lignes. Il s'agit tout simplement d'ajouter au contrat d'assurance du bateau une petite contribution qui sera reversée à la SNSM. Une taxe de 5 euros par an pour les plus petits bateaux et jusqu'à 30 euros pour les navires de plus de 15 mètres. L'idée de Sébastien Jumel, c'est aussi de responsabiliser les plaisanciers. Il était l'invité de Nico Saliagas sur Europe 1 ce matin.
70% des personnes sauvées par la SNSM sont des plaisanciers. Mmh. Il y a donc un enjeu de mise à contribution. Quand vous allez au ski, quand vous payez votre forfait de ski, vous contribuez à payer les secours. Mmh. Eh bien, on généralise les assurances pour les bateaux de plaisance. Je mets ça sur la table, c'est facile à mettre en œuvre. Et puis, un bateau de 7 mètres, 5 euros, c'est pas la mer à boire.
Avec cette taxe, le député espère récolter plus de 5 millions d'euros par an, de quoi consolider le budget de la SNSM. Cela va dans le bon sens pour Xavier de Lagorce, le patron de l'association de sauveteurs, qui met toutefois en garde les parlementaires.
Il ne faudrait pas que ça siphonne la générosité actuelle, parce que si on crée une taxe, si on gagne 5 millions d'un côté et qu'on en perd 3 de l'autre, le solde n'est pas formidable. Voilà, c'est ça qu'il faut bien mesurer. Il y a du pour et du contre. Ce qui est bon, c'est la prise de conscience. Il faut faire quelque chose.
Car il y a urgence pour assurer le fonctionnement de la SNSM, pour renouveler la flotte vieillissante. Il manquerait entre 4 et 6 millions d'euros tous les ans.
Merci Marguerite Lefebvre.
C'est une enquête exclusive qu'Europe 1 vous révélait dès ce matin. Nous sommes remontés à l'origine du trafic de drogue qui explose en Guyane. Au total, 1300 personnes arrêtées l'an passé. Un chiffre, Pierre, qui a doublé en un an.
Et pour ce faire, le gouvernement a lancé il y a 2 mois un plan de lutte contre le phénomène des mules. Ces personnes qui transportent des sachets de drogue en les dissimulant sur ou dans leur corps ou dans leur bagage pour passer la douane. Théo Manval, vous avez suivi la trace de ces mules.
Oui, je vous emmène sur les bords du fleuve Maroni, tout à l'ouest de la Guyane, de l'autre côté à 2 km. C'est le Suriname d'où vient la drogue. Des pirogues font l'aller-retour chaque jour pour transporter des voyageurs et certains reviennent avec une cargaison de cocaïne. Il suffit de demander aux jeunes qui attendent ici qui a déjà fait la mule et pris l'avion jusqu'à Paris.
Qui a déjà parti au Paris?
Lui là-bas, il l'a fait au mois d'octobre, me dit ce jeune homme en pointant un autre garçon du doigt, tresse courte et dents en plaqué or. Il a emmené 6 kilos de cocaïne scotchés sous ses vêtements, autour des jambes et de la taille. Moi, poursuit celui qui parle, j'ai transporté 800 grammes dans mon corps en avalant des capsules. Et ils sont de plus en plus nombreux, ces jeunes, envoyés par les trafiquants. 8 à 10 mules pour chaque vol entre Cayenne et Orly, selon les policiers. Les réseaux savent que les douaniers ne sont pas assez nombreux pour traiter plus de 2 personnes par jour. Ils jouent clairement la submersion.
Les autorités ont donc lancé un plan de lutte renforcé il y a 2 mois. Théo, quel est le bilan ?
Eh bien, on n'en est qu'au début. Les arrestations lors des contrôles ont été multipliées par 3, selon le procureur de Guyane, Samuel Finiels. Mais ça ne suffit pas encore, écoutez-le.
Sur les démantèlements des trafics, là on ne voit pas encore totalement les fruits de cette politique parce que ce qui est vraiment important pour nous, c'est d'empêcher les gens de prendre l'avion pour qu'on puisse dégager du temps pour les services d'investigation sur le démantèlement des trafics.
4 agents supplémentaires doivent rejoindre les douanes à la frontière d'ici l'été. Vous l'entendez, la lutte ne fait que commencer.
Merci Théo Manval pour cette enquête exceptionnelle qu'on retrouve bien sûr sur notre site europe1.fr. Une dernière minute également concernant le crash de l'avion de la Malaysia Airlines, le MH17. Les Pays-Bas vont juger 4 suspects pour meurtre. Ça sera en mars de l'année prochaine.
Il est 12h45, vous écoutez Europe 1, la suite du journal avec Pierre de Villeneuve et Raphaël Duchemin.
La boulette, même si elle est très grosse, les étudiants du bac français, en tout cas pour ceux qui sont tombés sur le commentaire de texte dans les séries S et ES, ont découvert un peu tard que l'auteur était une femme.
Ouais, et en l'occurrence, André Chédide, qui, avant même d'être la mère du compositeur Louis Chédide, d'être la grand-mère de l'artiste M. Mathieu Chédide, était une poétesse du XXe siècle. Alors, c'est le pataquès. Les commentaires ont suivi sur les réseaux sociaux. Il y en a un, par exemple, qui dit que s'il a la moyenne au bac, il va mettre la photo d'André Chédide en photo de profil Twitter. En tout cas, c'est vrai, ils ont été pour le moins troublés. Écoutez Joshua et Pablo.
Je m'attendais à voir du Victor Hugo, du Aragon ou quoi, et en fait on nous a fait apprendre tout ça pour tomber sur André Chédide que beaucoup de gens connaissaient pas, je pense. J'ai fait peut-être une bonne première partie où j'ai mis il tout le long, et en fait c'est en relisant le texte une deuxième fois pour me remettre dedans, et j'ai vu le André, j'ai modifié tous les il en elle, donc j'ai fait pas mal de ratures et mis un peu de blanc partout, mais bon. La plupart de mes amis, ouais, je pense pour bien 90%, ils avaient vraiment tous pensé que c'était un homme et ils ont mis l'auteur sans eux ou il tout le long de leurs commentaires.
La plupart se sont trompés. Ils avaient mis il pour parler d'André. Oui. Je voulais pas trop me positionner, on sait jamais. Du coup, j'ai mis l'auteur, donc qui était plutôt général. Et sinon, j'ai cité son nom ou l'auteur. J'ai pas mis il ou elle.
Voilà, il y en a qui sont prudents, Joshua et Pablo avec Ève Rocher, dans le monde de la littérature. On s'offusque, bien sûr. Écoutons à propos, du coup, un peu plus mesuré, celui de l'écrivain Éric Fotorino, qui ce matin était dans nos locaux.
Je suis surpris parce que il faut toujours lire les énoncés et les auteurs. Et André, dès lors qu'elle est une femme, ça s'écrit avec un E au bout. Et E. L'autre chose, mais alors peut-être que les générations changent encore plus vite qu'avant, c'est que M a toujours dit, depuis des années et des années, que son personnage de M et la première grande chanson qu'il a chantée avait été écrite par sa grand-mère, André Chédide. Je pense que ça dit que être une femme, être une artiste, ça ne va pas de soi. Et il faudrait presque quasiment le souligner. Vous savez, comme une discrimination positive. Il aurait fallu dire aux élèves, attention, André Chédide est une femme, comme si c'était quelque chose qui n'allait pas de soi. Et je crois que c'est ça que ça dit. C'est que aujourd'hui, c'est comme si le monde était toujours coupé en deux, qu'il y a naturellement les hommes qui créent, et puis les femmes accessoirement. Alors, elle serait appelée Simone, évidemment, Simone de Beauvoir, ce serait passé. Mais André Chédide, voilà le côté caché de la féminisation dans un nom.
Voilà le point de vue d'Éric Fotorino, interrogé par Mathieu Bock.
Il est 12h48. Europe 1. Restez avec nous, on vous emmène au cinéma et on va aussi écouter un peu de musique, pas n'importe laquelle. À tout de suite.
Il est 12h51, vous écoutez Europe 1, la suite du grand journal de la mi-journée avec Pierre Devineau et Raphaël Duchemin.
Et c'est l'événement musical de cette semaine, Sir Elton John est en France.
L'énorme Elton John est dans sa tournée d'adieu entamée l'automne dernier aux États-Unis, avant Bercy demain soir, Bordeaux samedi, Nîmes dimanche. Il était sur la scène du stade Pierre-Mauroy près de Lille. Reportage de Jean-Gabriel Bourgeois.
Lunettes bleues scintillantes et costume sombre au col à paillettes bleues, rouges et blanches, Elton John s'installe au piano dans un stade survolté. Le génie de la pop salue son public en français.
C'est le 100e spectacle de Farewell Yellow Brick Road ce soir. 100e.
Pendant plus de 2h30, la légende vivante enchaîne 50 ans de tubes. Percussion, guitare, piano et surtout la voix d'Elton John.
Il n'a pas perdu sa voix, malgré son âge.
Les frissons, l'émotion, magnifique.
C'était un beau concert.
À l'apothéose d'une carrière, génial.
Franchement, la claque.
C'est dommage qu'il s'arrête, hein.
Je voudrais le revoir encore, je voudrais que ça continue encore toute la nuit.
I will miss you very much.
La tournée d'adieu de Sir Elton John va durer encore 1 an et demi et plus de 200 concerts jusqu'à Londres en décembre 2020. Villeneuve d'Ascq, Jean-Gabriel Bourgeois, Europe 1.
Et Elton John sera décoré de la Légion d'honneur vendredi, jour de la fête de la musique, par Emmanuel Macron lui-même.
Et puis c'est mercredi, Pierre. On va donc voir ce qu'il y a dans les salles de cinéma. Mathieu Charrier, deux films au programme. On commence par votre coup de cœur, ça s'appelle Nevada, sur ces détenus américains à qui on imposait d'élever des chevaux.
Exactement, c'est inspiré d'une histoire vraie. On est dans une prison du Nevada, roman, c'est Mathias Chonard, c'est un détenu un peu renfermé sur lui-même qui a coupé le contact avec le monde extérieur, il n'a même plus de nouvelles de sa fille, lorsque l'administration de la prison va lui demander d'intégrer un programme de réinsertion qui consiste à dresser des chevaux sauvages. Ils sont capturés dans les plaines désertiques du coin, puis dressés par ces détenus avant d'être vendus. Détenus qui au départ n'y connaissent rien, mais qui ont une telle force et de tels sentiments en eux qu'ils parviennent à faire plier les poulains les plus fougueux. Roman va se lancer, début d'une histoire dont je ne peux pas vous dire grand-chose de plus, mais qui est à la fois onirique, belle. Qui de l'homme ou de la bête est le plus animal finalement? C'est un film d'ambiance qui vaut le coup. Et ça s'appelle donc Nevada, signé Laure de Clermont-Tonnerre.
Et puis Mathieu, pour les amoureux de la danse comme moi, il y a aussi le biopic de Nouraïef.
Oui, et le film nous plonge dans la période durant laquelle ce jeune danseur va basculer de l'URSS aux folles nuits parisiennes. En fait, tout commence en 61, en pleine guerre froide, au moment de quitter la France après une tournée avec sa troupe pour retourner au pays. Donc Nouraïef fait défection sur le tarmac, il décide de rester et s'oppose aux membres du KGB. Le lendemain, la presse titre « Le grand saut vers la liberté ». Le réalisateur cherche aussi et surtout à s'intéresser à la personnalité de ce danseur, de ce petit garçon né dans une famille pauvre de tatars musulmans et qui est devenu le danseur le plus célèbre au monde. Voilà, c'est un biopic qui est très classique sur la forme, avec une tension qui monte tout au long du récit. Et on balaye aussi une période historique et très intéressante de notre histoire. Je mets donc 3 étoiles sur 5 aux deux films, Nevada et Nouraïef.
Merci Mathieu Charrier, Monsieur Cinéma d'Europe 1.
Merci Pierre. On vous retrouve d'ici quelques minutes pour l'essentiel de l'actualité.
Il est 12h54.
Europe 1.
Restez avec nous, on va se protéger du soleil aujourd'hui, mais en version tricolore. C'est la France qui bouge, on vous attend. À tout de suite.
Et c'est l'heure de faire un point sur la météo, Raphaël Duchemin.
Oui, Elena Morna, les orages reviennent cet après-midi.
Des orages localement forts, hein, non seulement cet après-midi, mais aussi ce soir et cette nuit, avec des averses de grêle qui vont circuler assez rapidement du pays nantais aux Hauts-de-France. Ça, c'est pour la première salve. Mais on aura un autre axe orageux qui, lui, circulera du Massif central au centre et nord-est, des orages qui gagneront les Alpes et l'Alsace en soirée. Alors, en dehors de ces orages cet après-midi, eh bien, c'est nuageux, incertain, menaçant sur toute la moitié nord, jusqu'au sud de l'Auvergne et la Haute-Vallée du Rhône. Des éclaircies tout de même qui reviennent timidement sur la Bretagne et le sud-ouest, ensoleillées sur le pourtour méditerranéen. Attention aussi sur le sud-ouest, hein, une autre pulsation orageuse, une troisième, remontera d'Espagne vers les Pyrénées au cours de la nuit. Alors les températures, c'est une petite claque quand même sur les régions de l'ouest, parce que par exemple Biarritz hier 34, cet après-midi 23. 17 seulement à Cherbourg, 23 à Lille, 26 à Paris et Montluçon, 28 à Marseille, 29 à Toulouse. Là, ça reste très chaud, notamment dans l'Est, avec 31 à Lyon ou Strasbourg.
Et est-ce que demain, ça s'améliore ?
Non. Demain, on aura encore un axe orageux du sud-ouest au Massif central et frontières de l'Est qui va se renouveler et s'intensifier vendredi, jour de l'été, jour de la fête de la musique, célébrée en fanfare, hein, avec ces orages très forts. Retour au calme pour le week-end.